Tout artiste de jazz connaît bien les dynamiques d'une session d'enregistrement et sait que cela peut engendrer des échanges musicaux jubilatoires, des élans créatifs transcendants, mais aussi parfois des moments de tension, de désaccord et de frustration. Un enregistrement de groupe, c'est aussi une performance collective, et donc une rencontre de personnalités, qui ne sont pas toujours faites pour s'entendre. En octobre 1958, Cecil Taylor enregistre dans un studio new-yorkais avec John Coltrane. Il s'agit d'ailleurs de leur unique collaboration. Pour cette date, le label United Artists Records se charge contre le gré de Taylor de choisir les artistes. Et ainsi est formé un quintet avec, en plus du piano et du saxophone, Chuck Israels à la contrebasse, Louis Hayes à la batterie et Kenny Dorham à la trompette. Ce dernier notamment n'est pas le premier choix de Taylor, qui aurait préféré Ted Curson, plus moderne selon lui. Trompettiste et pianiste n'apprécient pas le jeu l'un de l'autre, et la session est désagréablement tendue. Pourquoi ? Vous le percevrez peut-être, puisque nous écoutons le morceau Shifting Time, issu de cet album, Coltrane Time, à l'origine appelé Hard Driving Jazz. Le trompettiste joue strictement dans l'idiome bop, alors que Taylor accompagne de manière oblique et dissonante. Leur mésentente symbolise en quelque sorte un choc des époques, Dorham incarnant les traditions du hard bop et Taylor les nouvelles directions que la musique allait prendre dans les années à venir. Des directions que Dorham rejetait, lui qui ne comprenait pas la vision d'un artiste radical et intransigeant. Un artiste qui cherchait à briser les frontières, à forger sa propre syntaxe musicale et refuser de se plier aux rigidités des conventions du genre et les définitions réductrices du métier d'improvisateur. Un artiste génial, un virtuose, un iconoclaste, qui vient de nous quitter à l'âge de 89 ans. Je m'appelle Luxi Bright et vous écoutez le programme Jazz Story sur Art District Radio. Cecil Taylor naît le 22 mars 1929 à New York. Il étudie la composition et l'arrangement au Conservatoire de musique de la Nouvelle-Angleterre à Boston. Sa formation est en musique classique, et il découvre l'œuvre de compositeurs modernes européens tels qu'Igor Stravinsky, qui informeront sa sensibilité musicale. Il commence aussi à cette période-là à s'intéresser au jazz moderne et fréquenter les clubs locaux, où il verra jouer notamment Charlie Parker, Bud Powell et Sarah Vaughan. Il puise son inspiration dans le jeu de pianistes tels qu'Horace Silver, dont il admire le phrasé intense, Dave Brubeck, qui déjà au début des années 50 emploie des techniques d'improvisation qui anticipent les développements stylistiques de Taylor quelques années plus tard, mais aussi Duke Ellington. L'influence de ce dernier n'est peut-être pas immédiatement évidente, mais il la revendique. « Je n'ai pas peur des influences européennes », dira-t-il au critique Nat Henthoff. « L'idée est de les utiliser, comme l'a fait Ellington, comme partie intégrante de ma vie de noir américain. » En 1955, il retourne vivre à New York et forme un quartet avec le contrebassiste Buell Neidlinger, le batteur Dennis Charles et le saxophoniste Steve Lacy. Il enregistre avec eux son premier album, Jazz Advance, qui sort en 1956. Celui-ci est produit par Tom Wilson, qui est connu notamment pour le travail qu'il effectuera par la suite avec d'autres artistes de l'avant-garde comme Sun Ra, mais surtout des musiciens de la scène rock et folk comme Bob Dylan, Frank Zappa, le Velvet Underground, Nico et Simon & Garfunkel. La musique sur Jazz Advance est très radicale à l'époque de sa sortie, et ne ressemble à presque aucun album contemporain. Le format de l'ensemble est celui d'un groupe de hard pop, batterie et contrebasse tenant plus ou moins le rôle conventionnel qui leur correspond dans un tel ensemble. Mais en revanche, l'approche stylistique de Taylor est complètement unique et laisse entrevoir la direction musicale qu'il allait prendre par la suite. Nombreux des éléments caractéristiques de son jeu sont déjà là au stade embryonnaire. Son goût pour l'atonalisme, le dodécaphonisme, la dissonance, la liberté rythmique et structurelle de ses improvisations, son utilisation de la polyrythmie et des sons conjoints, les clusters, ses bonds d'intervalle, ses envolées virtuoses, son jeu très physique et percussif au piano. La dimension physique de son jeu, il la rapproche à la danse, qui selon lui, informe ses idées sur la structure et le mouvement. Ses propres mouvements sur scène et autour de son instrument faisaient d'ailleurs aussi partie de ses performances. Il fréquentera d'ailleurs de près le milieu de la danse puisqu'il collabore avec Diane McIntyre à la fin des années 70 et écrit même la musique pour un ballet de Mikhail Baryshnikov en 1979. J'essaye d'imiter au piano les bonds dans l'espace que fait un danseur, dit-il. Pour cela, il s'inspire notamment des mouvements flamenco de la légendaire Carmen Anaya, mais surtout d'une danseuse qui lui était très proche, sa mère. Elle lui était complètement dévouée, encourage très tôt son talent et le pousse à travailler son piano. Mais elle meurt alors qu'il a à peine 14 ans. Dans des interviews, Taylor parlera toujours d'elle avec énormément d'affection. Sa fascination pour la danse et révélatrice de son envie de mêler les genres. Taylor était en effet aussi poète. Ses poèmes apparaissent souvent dans les livrets de ses albums, et il lui arrivait de les incorporer dans ses performances en les déclamant sur scène pendant qu'il jouait. Sur son album Chinampas de 1987, il en récite une dizaine, en s'accompagnant avec des percussions. Mais revenons à ses débuts. En 1957, son quartet joue au Festival de Newport, et l'année suivante sort son second album, Looking Ahead. Taylor demeure toutefois un personnage assez marginal sur la scène jazz à cette période de sa carrière. Son intransigeance et son style très idiosyncratique dérangent. Il n'a pas accès à certains clubs conventionnels et peine à vivre de son art. Mais Taylor continue de travailler et d'innover avec abnégation. Le passage à la nouvelle décennie marque également une transition dans sa propre musique. Le passage d'une approche moderniste aux traditions du jazz de l'époque vers de nouvelles formes radicales de composition et d'exploration sonore. Taylor prend ses aises, commence à réaliser pleinement sa vision musicale, libre, féroce et atonale, et surtout à s'entourer des artistes les plus à même la faire vivre. C'est en effet à cette époque que Taylor commence à travailler avec des musiciens qui deviendront des collaborateurs réguliers au sein de son groupe, qu'il nomme The Unit. Notamment Jimmy Lyons au saxophone et Sonny Murray à la batterie. Les deux l'accompagneront lors d'une tournée en Europe en 1963, au cours de laquelle seront enregistrées ces fameuses sessions au Café Montmartre à Copenhague. Pour l'histoire, un jeune Albert Taylor, à l'époque complètement inconnu, jouera sur quelques morceaux lors de ses concerts. De rares enregistrements avec lui ont survécu, mais n'ont vu le jour qu'en 2004. En 1966, il enregistre Unit Structures, considéré par beaucoup comme son magnum opus. Il commence aussi à cette époque à donner des concerts en piano solo, ce qu'il poursuivra jusqu'à la fin de sa vie, produisant plusieurs enregistrements d'exception, tels que Silent Tongues en 1973. Le début des années 70 marque aussi un seuil important dans sa carrière, puisqu'il commence à être acclamé critiquement et reconnu à juste titre comme un élément majeur de la scène artistique américaine. Il reçoit la bourse Guggenheim en 1973, il recevra aussi le prix MacArthur en 1991, et jouera même pour Jimmy Carter à la Maison Blanche. Il alterne par la suite entre périodes prolifiques et périodes de relative inactivité. Après la mort de son ami et partenaire de plus de 20 ans, Jimmy Lyons, en 1986, il passera des séjours prolongés en Europe, et notamment à Berlin, où il a l'occasion de collaborer et d'enregistrer avec de nombreuses figures importantes de la scène free européenne, dont Tony Oxley, Derek Bailey, Evan Parker, Han Benick, Luis Moholo. Nombreux de ses concerts autour de cette période ont été enregistrés par le label allemand FMP. Il forme également en 1989 le trio Phil, avec William Parker et Tony Oxley, après avoir joué sporadiquement avec eux pendant quelques années auparavant. Au cours des années 2000, Taylor continue de donner des concerts, mais il enregistre moins. En 2013, il reçoit le prix Kyoto dans la catégorie musique, à ce jour le seul musicien de jazz à avoir été récompensé. Malheureusement, il est par la même occasion victime d'une escroquerie, et sa récompense de $500 000 lui est volée par un homme avec qui il s'était récemment lié d'amitié. En 2016, le Whitney Museum of American Art organise une exposition rétrospective et une résidence artistique dans laquelle figurent des films, une pièce de théâtre, des conférences et surtout son avant-dernier concert en public. Il joue du piano, récite ses poèmes et accompagne le danseur japonais Min Tanaka. Un remarquable hommage à un artiste visionnaire et polyvalent, dont la vaste œuvre aujourd'hui continue de faire parler, de choquer, d'émerveiller et d'influencer. Il meurt le 5 avril 2018, à 89 ans, moins d'un mois après le décès de son vieil ami, Björn Eidlinger.